Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission chaque jour, vous la connaissez, vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur le monde du tennis. Roland Garros a commencé. Vous allez voir que le secteur, à grands coups d'innovation, se met au service des amateurs et des professionnels. Elle est née dans les années 60, dans la tête d'un champion qui voulait construire sa propre Formule 1. Elle est restée familiale. Ligier est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous devez peut-être vous faire opérer, vous n'êtes pas sûr du diagnostic. La solution aujourd'hui, c'est mondeuxièmeavis.fr. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend comme chaque jour en direct avec nous. Vous décrochez votre téléphone, Anissa, et vous venez nous dire si vous aimez, tiens, taper quelques balles le week-end ou si vous préférez regarder le tennis à la télé.
Vous aimez le tennis, vos enfants font du tennis, vous avez des questions à poser sur ces innovations autour du tennis, n'hésitez pas, hein, c'est maintenant que vous avez la parole sur Europe 1. 39-21, le standard, 50 centimes la minute. Et puis on lit également vos questions, vos réactions, vos témoignages si vous jouez au tennis. Sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Et pour accueillir nos invités, comme chaque jour à mes côtés, un complice. Aujourd'hui, c'est Paul Lassène qui est là. Bonjour Paul.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et on attend notre coach qui a eu un problème avec son blablacar. C'est Frédéric Mazella qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Quand on est un pro, vous serez d'accord avec moi, le moindre de nos mouvements est analysé. Hein, on regarde en détail comment joue Raphaël Nadal ou Novak Djokovic. Mais ça n'est pas la même chose quand on est un amateur. Et pourtant, ce serait bien utile pour pouvoir améliorer son jeu. Bonjour Julien Vernet.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et PDG de Mojo. Vous avez au départ une formation d'ingénieur télécom en informatique. Comment êtes-vous arrivé au tennis?
C'est l'idée d'un de mes cofondateurs en fait, qui s'est demandé avec ses frères pourquoi, après chaque défaite, pourquoi il n'avait pas de stats, parce qu'il voulait vraiment comprendre pourquoi il perdait. Et tout est parti de là. Une réflexion simple. On s'est dit en fait qu'on souhaiterait analyser le tennis à partir d'une seule caméra, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Et voilà où ça nous a amené aujourd'hui.
Ça veut dire que ça existait pour les professionnels, mais pas forcément pour les amateurs.
Alors l'analyse automatique, elle existe sous la forme du Hawkeye depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Donc ça s'adresse qu'aux tournois, ça coûte relativement cher. Mais une analyse très simple à partir d'une seule caméra, comme je vous le disais, ça c'est quelque chose de tout nouveau. On a un algorithme unique en fait qui nous permet de faire ça, qu'on a développé maintenant ça fait 5 ans quasiment. C'est ça la différence, c'est qu'on est simple.
Vous êtes simple et les caméras ne sont pas situées exactement au même endroit que les caméras de télévision pour filmer un match.
Alors, en fait, on a deux activités. Nous, en fait, on a une technologie de traitement d'image et d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Ça permet d'analyser les matchs de tennis à la volée, donc c'est-à-dire quasiment en temps réel, avec quelques secondes d'écart. Et ensuite, on travaille pour les tournois et pour les clubs. Les amateurs. Donc pour les tournois, là justement, on travaille avec les flux télévision. Mm-hmm. Donc ce fameux point de vue caméra arrière, et des changements de plan. Et en club, là où c'est totalement différent, où on installe des systèmes sur les courts de tennis, là on a une caméra qui
est sur le côté du terrain, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Avec ce point de vue qui nous est propre, c'est un peu notre marque de fabrique. Plus une caméra arrière qui est plus télévisuelle en l'occurrence.
Et alors la caméra qui est sur le côté du terrain, elle est reliée, si j'ai bien compris, à une tablette tactile qui, elle, est située juste à côté du filet?
Tout à fait, vous avez bien compris. Donc les deux caméras, en fait, sont reliées à un ordinateur tactile. Et la caméra centrale, c'est celle qui est utilisée par notre algorithme. Notre algorithme qui analyse automatiquement en fait, tout ce qui se passe sur le terrain.
Donc tous les mouvements du bras, de la raquette, la manière dont la balle est tapée, on peut vraiment tout détailler.
Tout détailler. En fait, les amateurs peuvent avoir leur stats comme les pros. En fait, c'était notre promesse depuis le départ.
Paul, moi je voudrais qu'on regarde le monde du tennis aujourd'hui en France, parce qu'on est en train de parler de tennis, des amateurs, des professionnels, mais c'est quelque chose qui pèse de plus en plus. Hein.
Oui, et aujourd'hui la Fédération française de tennis compte un peu moins d'un million de licenciés en 2018. Alors c'est des jeunes pour la plupart, puisque 51% ont 18 ans ou moins. C'est moins féminin par contre, il n'y a que 30% des licenciés qui sont des femmes. Et par contre, depuis 2010, le nombre de licenciés recule fortement, ce qui a fait passer la barre sous les 1 million. Il faut quand même noter que la Fédération française de tennis reste la deuxième en nombre de licenciés derrière la Fédération française de foot.
Justement, Julien Vernet, moi, je voudrais comprendre comment est-ce que ce type de dispositif peut aider la Fédération. Est-ce que c'est quelque chose de capital de pouvoir progresser dans le détail? Ça existe d'ailleurs, ce système pour le football. On parlait de football.
Alors, pour le football, des systèmes simples qui produisent des analyses aussi détaillées que nous, je pense pas que ça existe sous cette forme-là. Mm-hmm. Il y a des systèmes voisins, des objets connectés qu'on porte sur soi. Alors, pour revenir à votre première question, relatif à la dynamique de la fédération, je pense que c'est une question de modernité. Justement, les clubs de tennis ont besoin de se digitaliser, de produire du contenu, que ce soit en live ou que ce soit aussi... Parce que, avec notre outil, on peut organiser des tournois automatiques. Ça permet de générer des contenus sur Facebook. Et c'est le virage que les clubs de tennis ont besoin de faire. La fédération est bien consciente que la digitalisation, c'est un enjeu majeur pour eux. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, on s'inscrit. Également former les coachs à adopter tous ces outils.
Vous avez lancé le produit fin 2015-2016. Il a subi des évolutions depuis, je suppose ?
Ouais, c'est assez considérable. En fait, au départ, on faisait juste des matchs avec des statistiques. Aujourd'hui, on fait des statistiques sur le court. On s'adresse beaucoup plus aux coachs. Parce qu'on sait qu'en fait, les coachs, c'est eux qui font vivre un club. Enfin, c'est pas que les joueurs de tennis. Les joueurs de tennis, évidemment, c'est important, mais les coachs sont un maillon clé de ce
système. Ça permet de corriger, évidemment, les mouvements et d'aider les joueurs à progresser.
Tout à fait. Ça permet d'avoir des statistiques si on veut faire que des services, par exemple, sur le terrain, ce qui est un exercice, a priori, qui est plutôt ennuyeux habituellement. Là, ça permet de le gamifier, on va dire. C'est-à-dire d'avoir des stats, de se fixer des objectifs, de choisir son niveau et de se mettre des défis avec un partenaire en face. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
Et puis vous dites aussi, ça a une autre dimension finalement, parce que quand on regarde du tennis, il y a 80% je crois de temps mort. Là, du coup, tout est ramassé.
Oui. Alors, bon, quand on regarde un match de tennis en live et que c'est un grand joueur, enfin que c'est un grand match, bon, les temps morts, ça fait partie de la chose. Et
ça fait partie du suspense.
Mais c'est vrai, quand on est un amateur et qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut revoir sa session a posteriori, le fait d'avoir un contenu qui a été pré-indexé, où on s'est retrouvé exactement le 4-4 15A, où je me rappelle que j'ai fait un super truc, ça fait la différence, clairement.
Combien de salariés aujourd'hui dans votre entreprise, chez Mojo ?
Aujourd'hui, on est 7 dans le bureau à Paris. Et puis, on a 2 personnes qui commencent à travailler par nous. Là, pour nous, c'est tout nouveau en Allemagne et en Angleterre.
Ça veut dire développement à venir à l'international, justement ?
Oui, c'est notre objectif, là. En fait, on a fait une petite levée de fonds au début de l'année. Maintenant, on estime que notre produit club, notre service club, et fonctionne bien et qu'on peut facilement l'expédier à l'étranger. En fait, parce que notre système, c'est un peu comme un meuble IKEA. On l'expédie en kit avec une documentation. Et en fait, l'objectif, autant que possible,
peu, oui.
Tout à fait, merci, c'est que les clients l'installent eux-mêmes, en fait, les clubs. On essaye de rendre les choses le plus simple possible, même à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs français qui ont adopté votre dispositif aujourd'hui.
Alors, en France, on a à peu près une cinquantaine de clubs, oui.
Une cinquantaine. Et l'objectif, c'est de les installer un petit peu partout.
Alors notre objectif en ce moment, c'est clairement d'accélérer les choses en Europe. En Europe, c'est l'Allemagne et l'Angleterre qui sont les plus gros marchés pour nous. Et puis les États-Unis. Pour les États-Unis, c'est toujours le rêve américain pour toutes les startups. Et on va commencer petit, parce que. Mais ouais, c'est ça ce qui nous fait rêver en ce moment. Ouais.
On continue à parler tennis ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous aimez aller jouer au tennis le week-end, mais vous ne trouvez jamais de cours. La solution, c'est peut-être pour vous Anybody. À tout de suite.
À l'occasion des internationaux de France de Roland-Garros, hein, pendant 15 jours, Europe 1, vous le savez, est la radio officielle. Aujourd'hui, on parle tennis avec vous, Raphaël Duchemin, et avec vos invités. On découvre les innovations françaises dans ce milieu du tennis.
Vous avez peut-être déjà essayé, Anissa, de réserver un cours de tennis,
oui,
pour
c'est
le
mon
week-end
quotidien.
Qui vient, avec une envie de jouer au tout dernier moment.
Oui.
Et aucun cours n'est libre, n'est disponible. Vous avez du mal. Et pourtant, il existe des solutions. Bonjour Frédéric Foucault.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Anybody. Alors Anybody, c'est une appli mobile pour réserver justement un terrain de tennis sans engagement, sans adhésion. et dites-vous au meilleur prix, ça on va en parler. Comment démarre l'aventure Anybody ?
Bah, l'aventure, elle démarre comme beaucoup d'entreprises par un constat simple hein, et puis une expérience personnelle. En fait, on a créé Anybody avec, j'ai créé ça avec deux amis. On était tous les trois amateurs de tennis.
Martial et Arnaud, c'est ça ?
Tout à fait. Et on était tous les trois amateurs de tennis. Et puis, on jouait au tennis quand on était plus jeune dans un club. Mais la vie a fait qu'on a quitté le foyer familial pour suivre des études et puis ensuite pour se lancer dans une carrière professionnelle. Et on a constaté que c'était très compliqué parce que les beaux jours arrivent, Roland-Garros arrive et on a envie de taper la balle de manière occasionnelle sans être adhérent d'un club et donc s'engager à l'année. Et on a remarqué que c'était très compliqué de trouver un terrain disponible à l'heure à laquelle on voulait jouer et puis surtout de qualité, voilà, de la terre battue, des beaux terrains entretenus.
Donc l'idée c'est mars 2016. Comment vous faites pour recueillir toutes les données et les mettre au même endroit pour qu'elles soient disponibles pour le grand public ?
Alors comment on fait techniquement ou comment on a fait des
comment débuts ? Vous avez fait pour vous avez contacté les différents clubs, demandé les plages de
on a,
les
on
plages
a fait
horaires,
ça de manière très artisanale au début. Puisqu'on a décidé de lancer notre activité sur Lille pour prouver un peu notre concept. Et puis, on s'est mis à appeler au téléphone les premiers clubs de tennis. On a eu beaucoup de portes fermées. C'était très compliqué au début, puisque ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. Et puis, voilà, ce système d'adhésion et de licence est un système qui est très présent dans le tennis. Et donc, du coup, on a dû évangéliser les premiers clubs. Et ils ont constaté aussi une baisse de licenciés, comme vous disiez, il y a une baisse de licenciés depuis quelques années. Et donc, il faut qu'ils trouvent de nouveaux moyens de ramener des nouvelles têtes dans les clubs. Et ça permet aussi d'améliorer leur taux de remplissage. Donc, au début,
ça vous a pris du temps, un an et demi, je crois.
Ça a pris beaucoup de temps. Et puis aussi, parallèlement à ça, il faut trouver aussi un peu d'argent pour continuer. Donc voilà, on est passé par le parcours classique de l'entrepreneur avec pas mal de galères.
Les premiers clubs, c'est où ? C'est à Lille ?
C'est à Lille, ouais. C'est à Lille. On a lancé cette activité en test en octobre 2017. Et puis, ça a tout de suite cartonné. On a eu beaucoup de demandes. Et c'est là où tous les autres clubs ont suivi. Et puis, à Lille, on a vite atteint 15-20 clubs sur la métropole lilloise. Et puis ensuite, on s'est développé sur deux villes.
Oui, puisque maintenant, vous êtes à Lille, à Paris, à Lyon, à Bordeaux et demain à Marseille.
Oui, Marseille, on l'a lancé là, ça y est. On est présent sur les 5 grandes villes françaises. Notre objectif, c'est de garder... de rester sur un modèle un peu citadin, puisque au final, quand vous recherchez un terrain pour ce soir 19h, il faut une multitude de clubs et de terrains disponibles. Donc notre objectif, c'est de rester sur un modèle de développement en ville. Ouais.
Comment ça marche ? On localise et on dit j'habite à tel endroit, je voudrais un cours à 19h et on regarde si c'est disponible.
C'est très simple d'utilisation. Vous téléchargez l'appli, elle est gratuite sur vos stores iOS et Android. Et ensuite, vous dites, vous inscrivez, vous dites « je veux jouer demain à 17h ». Et il y a un système de géolocalisation qui vous dit tous les terrains qui sont disponibles autour de vous en temps réel, à l'heure à laquelle vous voulez jouer.
Et alors justement, Paul, je crois que vous avez trouvé quelque chose qui a été mis en place par la fédération hein, pour essayer de freiner ce problème d'affluence sur les cours.
C'est une plateforme qui s'appelle Ten Up. Elle poursuit plusieurs objectifs. Donner l'envie de jouer au tennis, permettre de pratiquer facilement dans les clubs, mais aussi rendre ce sport plus moderne et plus accessible à ceux qui ne jouent pas au tennis. Cette marque se décline en deux éléments. D'abord, une appli mobile et un site internet. Et donc, en lançant cette plateforme digitale, la FFT souhaite faciliter l'accès à la pratique, réserver des terrains, rechercher des tournois ou défier vos amis et d'autres joueurs grâce à un parcours client plus fluide, des infos plus claires sur les clubs. Clubs qui seront les premiers d'ailleurs à bénéficier d'une potentielle dynamique générée par cette application.
Frédéric, aujourd'hui vous avez une quinzaine de clubs partenaires par ville, c'est ça ?
On en a, 15-20, on en a 250, un peu plus de 250 en tout. Et puis maintenant on a 60 000 personnes qui ont téléchargé l'application sur la promesse de réserver un terrain en autour de vous.
Je crois que c'est en cours dans le studio d'Europe 1. Anissa, qui est une grande joueuse de tennis. Hein.
Alors, c'est génial comme application, parce que je viens de l'installer pendant que vous en parliez, donc ça prend vraiment 1 minute 30 à installer. J'ai dit que je voulais un terrain pour ce soir vers 19h30. Bah, j'en ai J'en ai presque une dizaine de proposés selon ma géolocalisation. Donc effectivement, il y en a un dans le 15e arrondissement, tout à côté de la radio. Puis il y en a à peu près partout.
Vous savez avec qui vous jouez ce soir ou pas
alors, donc, du coup, je suis à la recherche d'un ou une partenaire.
Je suis disponible ce soir.
Bah voilà, vous voyez, c'est on bon. a trouvé. On a déjà le match. La suite, c'est quoi, Frédéric? Vous êtes 8 salariés aujourd'hui. Vous
on
avez
est
des,
8, oui, c'est
des
ça.
Envies de développement à l'international?
Ouais, exactement. Notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année d'être présent sur les 10 plus grandes villes françaises, hein, et puis ensuite, pourquoi pas se développer à l'international, puisque finalement, les grandes capitales européennes ou les grandes agglomérations européennes ont le même problème d'accessibilité aux courts. Nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre le tennis le plus accessible possible en levant tous les freins à la pratique. Et donc, évidemment, c'est de pouvoir vous proposer des terrains de tennis dans toutes les villes de France et d'Europe. Et à tous les prix.
Parce que là, il y a du 30 euros de l'heure et du 13 euros, du 12 euros de l'heure.
Qui détermine le prix? C'est le club?
C'est le club. Le club
décide de tout. Et vous prenez une participation?
Et nous, on prend une commission. Nous, on a juste un aspect de... Enfin, un rôle de conseiller sur le prix. Puisqu'évidemment, des prix trop élevés peuvent écarter un club là-dessus. Mais pour le coup, c'est le club qui choisit de tout. Le club est maître absolument de tout. Nous, c'est ce qu'on voulait vraiment, c'est donner au club les moyens de pouvoir se mettre en avant et d'avoir des terrains disponibles.
Vous parliez du tennis, c'est aussi possible avec les autres sports de raquettes? C'est
oui.
L'idée?
Alors, on est en train de se développer sur tous les sports majeurs de raquettes. Évidemment, 90% de notre activité, ça reste du tennis. Mais on a déjà créé à Lille une offre pour le badminton, le squash et le paddle aussi, qui est un nouveau sport de raquettes qui connaît un grand succès en Espagne, en Amérique latine, et qui est en train de se développer en France. Alors c'est un mélange un peu entre du tennis et du squash, ça se joue dans une cage en verre à 2 contre 2 et c'est en train d'inonder la France.
Eh, c'est pas la planche sur l'eau,
vous réservez pour ce soir,
je vais essayer le paddle. Ouais.
Allez, on reste ensemble, on parle tennis et on salue Frédéric Mazella qui vient d'arriver. Bonjour.
Non, j'ai manifestement raté le premier set.
Mais vous allez vous rattraper.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous jouez toujours avec vos vieilles balles et vous n'avez pas eu le temps d'aller en acheter de neuves. Et si votre matériel était livré chez vous, c'est possible grâce à MyTennisBox. A tout de suite.
À l'occasion des Internationaux de France de tennis, Roland-Garros, pendant 15 jours, Europe 1 et la radio officielle du tournoi. On vous fait vivre le tournoi toutes les demi-heures, bien sûr, sur l'antenne. On va retrouver Corinne Boulou dans un instant. Mais on vous parle des innovations en matière de tennis. Des innovations 100% françaises aujourd'hui, Raphaël Duchemin.
Eh oui, vous avez, vous qui faites régulièrement des matchs de tennis, Anissa, vous avez sûrement des balles, une raquette, parfois des problèmes de cordage. Et vous aimeriez bien, plutôt que d'aller au magasin, qu'on vous livre.
Ah, ça m'aiderait beaucoup.
Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, Yann Aude.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci
vous avez fondé MyTennisBox parce que vous avez toujours fait du tennis depuis tout petit.
Exactement, oui.
Le problème que je viens de décrire, vous le connaissez.
On le connaît bien et la plupart des joueurs de tennis justement connaissent ce type de problématique, de manquer de balles, de cordage, d'être perdu parmi tous ces accessoires, de manquer de conseils, avoir une nutrition sportive qui n'est pas forcément adaptée au tennis. Ça, c'est un petit peu le dada de la plupart des joueurs de tennis.
À 17 ans, vous étiez 36e, c'est ça, classé?
Français, oui. Ouais, 36e français, effectivement. Ouais. Donc j'ai eu un petit niveau, quand j'étais plus jeune. Mais il y a quand même une grande différence. Hein. Pour les auditeurs, je veux bien préciser qu'il y a une grande différence entre les trois premiers et le 36e. Hein. Il y a quand même... Voilà, j'étais pas.
Et vous avez arrêté de faire de la compétition et vous avez quand même continué à jouer notamment au tennis, pas seulement. Je crois que vous avez fait du poker aussi. Hein.
J'ai eu différentes vies.
Alors, comment est-ce que vous arrivez à la conception de cette boîte à l'intérieur de laquelle on a tout un tas d'accessoires qui nous permettent d'aller jouer au tennis?
C'est juste une compilation de toutes les galères qu'on a pu rencontrer en tant que joueur de tennis. C'est de se retrouver le dimanche avec son copain Michel et puis de dire « Michel, est-ce que tu as des balles ?» Et il dit « Tiens, là, j'en ai deux, trois. » Il la sort du sac et il y a le chien qui est à côté. On lance la balle et la balle est tellement usée que même le chien ne va pas courir après. Et on se retrouve à jouer avec ce type de balles. Et donc, on n'a pas de plaisir quand on s'entraîne. Et voilà, c'est cette compilation de tous ces petits écueils qui ont fait qu'on s'est dit au final, si tous les mois on recevait des balles de tennis, des accessoires qui étaient personnalisés en fonction de notre classement, de notre jeu, de notre niveau, on allait pouvoir faire découvrir à nos abonnés des produits qui sont sympas. Et puis voilà.
Et le projet démarre en 2016-2017, c'est ça?
2018, mais C'était il y a un an. Là.
Dans votre tête, 2016-2017.
Ah, voilà, on a commencé à réfléchir dès la fin 2016, début 2017, et le projet est vraiment sorti en 2018.
Ouais. Avec l'envie de mettre véritablement tout ce qui nous passe par la tête à l'intérieur de la boîte, vous avez fait une liste, vous avez procédé comment pour savoir ce qui vraiment allait correspondre? Est-ce qu'on peut faire des choix? Est-ce qu'on peut vous dire, moi je voudrais des balles ce mois-ci, ou je voudrais plutôt des cordages?
Alors, il est difficile d'arriver à une personnalisation encore, tout du moins pour l'instant, avoir une personnalisation qui est complète des box. Néanmoins, on va par exemple adapter les cordages. Là, dans la box que j'ai ramenée, on voit qu'il y a deux types de cordages différents.
Europa.fr.
Et voilà, on ne va pas mettre un cordage très technique et très exigeant à un gamin de 13 ans. Il va juste détruire le bras. Donc évidemment, on va adapter le cordage. Le but n'est pas que nos abonnés, évidemment, se fassent du mal en testant nos produits. Et c'est vraiment de trouver le meilleur produit qui correspond à leurs besoins et à leurs pratiques de jeu.
Que dit notre coach, qui est donc arrivé, Frédéric Mazella, de cette innovation, cette box, My Tennis Box?
Oui, mais je pense que c'est... j'ai quelques questions par rapport à la diversité des produits qu'on peut envoyer, parce que j'ai l'impression que quand on a envoyé des balles et des cordages, après on envoie quoi? Je m'excuse, je ne suis pas assez avancé en tennis, donc moi, une fois que j'ai reçu un set peut-être de balles et éventuellement de cordage, ça y est, je pense que
on est rodé
pour l'année.
Ça,
c'est beaucoup de dans l'esprit commun, on pense que les accessoires tennis, on peut garder par exemple un tube de balle toute l'année, mais un tube de balle, il faut savoir que les joueurs pro, bon, c'est pas le même niveau que des amateurs, mais ils changent plusieurs fois par set de balles. Un amateur devrait changer tous les 3-4 entraînements, on va dire, de tennis, et on se retrouve avec des personnes qui changent de balle tous les 6 mois et qui ont plus de confort. Donc on a vraiment des balles, on en a besoin tout le temps, et il y a énormément d'accessoires dans le tennis. C'est-à-dire qu'on a besoin, on doit changer ses cordages, ses grips, ses surgrips, on a besoin de matériel d'entraînement, il y a vraiment énormément de consommables.
Il
y a des barres énergétiques aussi, il y a aussi du textile parfois.
Il y a du textile, ouais, du textile, des produits de soins aussi, puisque les joueurs de tennis ont tout le temps mal quelque part, hein, souvent au dos, au bras, et n'ont jamais de produits dans leur sac pour pouvoir se soigner. Donc on rajoute aussi des crèmes de massage, des crèmes chauffantes, des crèmes pour les mains, pour les pieds, etc. etc.
Combien de box envoyées depuis vos débuts?
Là, on est à quasiment 2000 box envoyées là, depuis le début.
Entre 200 et 300 par mois, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Donc, pour l'instant, c'est bien parti. La suite, c'est quoi? Vous êtes tout seul pour l'instant dans cette aventure?
Alors, je suis tout seul à avoir fondé la société. Maintenant, on est 4. On a fait rentrer des youtubeurs, puisqu'on est vraiment des créateurs d'expérience sur le tennis. On s'est rendu compte qu'il manquait énormément d'influenceurs sur ce marché qui est assez conservateur et qu'il était difficile de créer une expérience complète avec l'utilisateur, avec le joueur de tennis. Donc, on a fait rentrer des youtubeurs dans l'équipe et là, on est en train de créer plein de contenus tennis super sympa à regarder sur les réseaux sociaux.
Avec une levée de fonds qui est prévu pour bientôt?
Pour la fin de l'année, oui.
Qui va vous servir à quoi?
Alors, payer les salaires, ramener des personnes en plus dans l'équipe pour créer tout ce contenu supplémentaire et penser à l'internationalisation, puisqu'on a un produit qui peut s'adapter à différents marchés vu que les problématiques sont les mêmes partout.
Et je voulais savoir combien elle coûte cette box, parce que je vais m'abonner.
C'est gentil. C'est 34,90 par mois pour 45 à 50 euros de produit de temps.
On reste ensemble et dans un instant, on va partir à Roland-Garros.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend aussi, bien sûr, 39-21 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge.
Europe 1.
Et la France bouge sur Europe 1, on est toujours sur les cours de tennis. Hein.
Oh,
on
oui.
bouge pas, alors on n'est pas porte d'Auteuil, on est
on
ici
n'est pas très statique quand même, Anissa.
Et on parle de tennis et d'innovation française en matière de tennis avec vos invités, Raphaël Duchemin. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant 39-21, le standard d'Europe 1.
Et on s'intéresse aux innovations françaises pour les amateurs de tennis notamment. Nous sommes avec Julien Vernet, cofondateur et PDG de Mojo, Frédéric Foucault, cofondateur d'Anybody et Johan Aube, fondateur de My Tennis Box. Frédéric Mazella, notre coach, nous a rejoint et Paul Lassen est toujours avec nous. Justement, Paul, moi je voudrais qu'on regarde un peu ce qui se passe pour les passionnés amateurs ou semi-professionnels qui veulent suivre leur performance individuelle, parce qu'on parlait de Mojo tout à l'heure. Je crois qu'il y a aussi une appli qui existe pour se mesurer, en tout cas se mesurer à leurs amis.
Oui, ça s'appelle My Tennis Player, une application qui embarque tout ce dont a besoin un joueur de tennis, son classement, son palmarès, ses tournois, son club, mais aussi la possibilité de partager tout ça à travers son propre réseau d'amis. Typiquement, si vous avez l'habitude de jouer contre vos proches, vous pouvez voir s'ils s'entraînent plus que vous. Vos partenaires et adversaires, eux aussi, pourront voir si vous vous entraînez. C'est un peu comme un réseau social tennistique. Vous pouvez même développer votre fan club et constituer votre communauté de supporters. et plus simplement, vous pouvez vous renseigner sur les clubs et les tournois proches de chez vous.
Vous connaissiez cette application, les uns et les autres ?
Oui, je connaissais, oui.
C'est quelque chose qui est en train de bouger aussi, le secteur du tennis, hein, je le disais tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'innovations qui se mettent en place. Est-ce que c'est encore à l'état embryonnaire ou c'est en train vraiment de bouger ? Julien, Frédéric ?
Moi, je trouve que c'est vraiment en train de bouger, hein, puisque finalement, beaucoup de secteurs ont fait leur révolution numérique, mais le sport est en train de la faire, et notamment le tennis. Donc oui, c'est vraiment en train de bouger avec les outils de la fédération, des entreprises comme nous qui faisons avancer aussi ce sport. Donc oui, ça change vraiment, ça bouge, les lignes sont en train de bouger, c'est super pour le tennis.
Ouais, je rajouterais quand même que est quand même à l'état de prise de conscience que le tennis doit se digitaliser. Et donc là, on est en train de mettre en place, et nous on arrive avec des startups pour arriver avec ces projets différenciants et digitalisés. Voilà, maintenant ça prend du temps et on ne change pas les mentalités comme ça en quelques secondes ou quelques jours.
Frédéric, notre coach.
Je pense que voilà, le digital, ça donne des occasions de s'améliorer. Voilà, je pense que j'ai enfin compris mon petit niveau de tennis. C'est parce que je ne reçois pas les balles tous les mois, j'ai pas le bon cordage.
Ben voilà.
Voilà, je pouvais pas réserver facilement mes terrains de tennis, j'étais pas non plus analysé en vidéo. Donc je pense que tout cela explique cela. C'est-à-dire, je pense que mon niveau de tennis s'explique complètement.
Je ferai pas de commentaires.
Tous ces outils-là manquent.
Justement, je voudrais qu'on revienne sur l'outil Mojo. C'est quelque chose qui vous a pris du temps à développer. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà en tête la suite, les évolutions de ce que vous allez pouvoir proposer ?
Alors, on a beaucoup de choses en tête. On pense à des sports connexes au tennis. Je ne peux pas trop en parler publiquement.
C'est un peu secret.
Mais clairement, on a envie de s'adresser directement au grand public. Ça, je peux vous le dire. Et puis plus tard, on aimerait peut-être aussi changer de sport.
Parce que c'est quelque chose qu'on peut dupliquer, ce système que vous avez mis en place avec ces caméras qui déchiffrent finalement notre manière de jouer.
Les sports de raquettes sont assez voisins en termes de construction. Donc forcément, avec un algorithme qu'on garde tel quel, on peut l'adapter assez facilement à d'autres sports. Après, l'enjeu, c'est de pouvoir l'adapter à des sports vraiment plus différents, mais ça, c'est pour plus tard.
Anissa ?
On le voit, vous avez popularisé le tennis avec vos applications, avec les box, ça devient un peu plus simple de se mettre au tennis, un peu plus accessible. Mais le nombre de licenciés, Paul le disait tout à l'heure, est quand même en forte baisse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les Français s'y mettent plus, et peut-être même plus jeunes, pour que les enfants fassent un peu plus de tennis ? Il n'y a pas de tennis à l'école, par exemple, donc est-ce qu'il y a quelque chose à voir par là ?
Julien, Frédéric, Johan, qui veut répondre ?
Moi, je peux apporter un élément de réponse. C'est vrai qu'il y a une baisse de licenciés depuis quelques années sur le tennis, mais finalement, le nombre de pratiquants ne baisse pas tant que ça. C'est que les gens ne veulent plus être membres de clubs, pour beaucoup, puisqu'ils veulent faire du sport à la carte. Ils sont aussi multisports, ils font du foot, ils font du running le week-end, ils font du tennis après, parce qu'il y a Roland-Garros, mais ils font 6 fois du tennis pendant un mois, et puis ensuite, ils n'en refont plus du tout. Donc finalement, le tennis est encore un sport majeur en France, c'est le deuxième sport le plus pratiqué. Et cette baisse de licenciés ne se caractérise pas forcément par une baisse de la pratique, c'est juste qu'il faut adapter maintenant ce sport à des nouvelles tendances de consommation, qui est souvent de la consommation à la carte. Et puis les gens aujourd'hui zappent.
C'est un peu cher en club aussi, il y a ça qui joue peut-être aussi.
Ça dépend, il y a des clubs qui sont plus abordables que d'autres, mais c'est surtout que les gens aujourd'hui sont des zappeurs entre un sport et un autre, et donc ils veulent plus être adhérents. Beaucoup ne veulent plus être membres d'un club à l'année et payer une adhésion.
Et ça fait partie des solutions que vous leur proposez aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus nous parler tennis aujourd'hui sur Europe 1. Merci.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle est née dans la tête d'un pilote qui rêvait d'avoir sa Formule 1 sur mesure, Ligier, et l'entreprise qui va bien, merci. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Raphaël Duchemin, chaque jour, vous nous présentez l'entreprise française qui va bien et peut-être que vous roulez avec aujourd'hui.
Peut-être bien, effectivement, parce que cette entreprise, c'est Ligier, Ligier Group. Bonjour François Ligier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette marque qui restait une marque familiale. Elle est née dans la tête de Guy Ligier, sportif de haut niveau, hein, parce qu'il avait tout simplement envie d'avoir sa propre voiture de Formule 1, une sorte de sur-mesure.
Et voilà, complètement. Guy Ligier, c'est un passionné de compétition et de compétition mécanique. Et, et s'était promis de créer son écurie avec son ami Josh Lesser. Le fameux Josh Lesser est décédé en compétition et Guy a créé ses voitures en hommage. D'ailleurs, elle s'appelle toujours JS.
Oui, il y a toujours le petit sigle. Hein.
De Josh Lesser, exactement.
Alors, comment est-ce qu'il fait au départ pour bâtir finalement sa petite entreprise, sa petite usine? On est du côté de Vichy, c'est le site historique, c'est ça?
Oui, le siège est à Vichy et Guy, avant de faire de l'automobile et de la compétition, c'est d'abord un entrepreneur de travaux publics. Et puis l'OTP lui permet de se financer sa passion qui est le sport automobile. Et puis la passion devient ensuite au fur et à mesure le métier. Et le métier prend le pas et il se met à créer ces voitures de course qui nous ont fait rêver pendant plus de 20 ans.
Donc l'idée c'est 1960, la réalisation c'est plutôt les années 70-80 où là ça commence à prendre forme.
Oui, la Formule 1, alors les premières voitures apparaissent à la fin des années 60, puis la Formule 1 en 76 pendant 20 ans jusqu'en 96, et puis en parallèle l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui se crée, donc deux mondes parallèles, la compétition d'un côté et l'industrie de l'autre avec les voitures sans permis à partir des années 80.
Il avait un côté visionnaire quand même, quand dans les années 70-80, il se dit je vais monter en parallèle un circuit de voitures électriques pour fabriquer de la voiture électrique. Aujourd'hui, on trouve ça normal, mais il faut se remettre en 20 ans ou 30 ans en arrière.
Des petits engins de forte mobilité, très, très forte insertion urbaine, moins 2,50 m de long, facile à conduire, accessible à tous. C'était son credo, hein, c'était sa volonté de développer cette mobilité pour tous. Et il l'a fait avec beaucoup de succès, puis on essaie de continuer son aventure.
Aujourd'hui, cette aventure, elle continue comment justement? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'entreprise? Quels ont été vos débuts? Vous êtes allé plutôt du côté Formule 1, plutôt du côté voiture électrique?
Ah, véhicule de route, ouais, tout de suite. Moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a une dizaine d'années maintenant. Mon père, entre mon grand-père et moi-même, a développé l'activité de production de voitures. Et donc, Guy se concentrait sur la compétition. Mm-hmm. Philippe, lui, développait l'activité industrielle. Et puis, moi, j'ai pris le relais de Philippe sur l'activité industrielle avec grande joie.
Que dit notre coach de l'aventure, Ligier?
J'ai l'impression que Ligier était en avance, elle est toujours d'ailleurs, mais parce que a conçu les voitures sans permis, puis maintenant on parle de voitures sans conducteur. Alors j'aimerais savoir quel est votre positionnement par rapport justement aux voitures sans conducteur, parce que peut-être que justement il y a une possibilité pour vous à aller chercher là maintenant.
Alors Ligier accompagne déjà une start-up qui s'appelle EasyMile, et Ligier fabrique pour le compte d'EasyMile une navette complètement automatique. Donc on emporte 12 personnes dans un véhicule qui fait 4 mètres de long, qui est complètement autoguidé, donc on va apprendre la route une première fois, et le véhicule va ensuite répéter de façon complètement automatique cette route avec tout un tas de capteurs qui sont embarqués sur cet engin pour lui permettre d'éviter les obstacles, de gérer la sécurité, d'appréhender la vitesse et de transporter dans les meilleures conditions ses usagers.
Vous avez ce produit, vous avez aussi inventé d'autres produits, je pense aux scooters électriques à trois roues.
Oui, nous travaillons beaucoup avec la Poste française notamment, mais d'autres postes en Europe également, qui utilisent nos véhicules. Donc ce sont des petits engins, des scooters effectivement, qui ont trois roues, qui ont une capacité d'emporter beaucoup de charges, tout en apportant une grande stabilité à son conducteur. C'est une innovation forte que nous portons maintenant depuis quelques années. On a 8000 véhicules qui roulent en France avec la Poste, quelques milliers également entre la Belgique et l'Italie. Et ces véhicules, ils sont très publicités parce qu'ils permettent d'appréhender cette contrainte des nouvelles mobilités de la marchandise. La révolution Internet amène de plus en plus de colis sur la route, et bien ces véhicules permettent de transporter ces colis.
C'est votre force, hein, travailler sur des petites séries. De ce fait, les gros groupes à côté ne viennent pas forcément sur ce secteur-là. On est sur des secteurs de niche.
Voilà, c'est la raison d'être de l'entreprise. Il faut trouver sa place. Donc, peu importe le modèle d'entreprise que l'on a, trouver la valeur ajoutée, trouver sa place. Et notre credo à nous, c'est fabriquer des véhicules de niche, fabriquer en petites séries, être capable d'industrialiser de la façon la plus robuste, la plus fiable, un véhicule qui est fait pour des petits volumes. Ce qu'un grand constructeur généraliste ne fera pas. On fabrique en une année 14 000 véhicules, ce qu'un constructeur généraliste fait en une demi-journée.
Vos carrosseries aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est important, elles sont en plastique, mais 100% des chutes sont revalorisées en matière première. Donc vous essayez d'être le plus vertueux possible.
Oui, le véhicule est fait de différents éléments, d'aluminium principalement, le plastique également. 96% du véhicule est complètement recyclable aujourd'hui.
Ouais. Et la suite, c'est quoi?
La suite, c'est continuer d'investir, continuer de développer, accompagner les 400 collaborateurs d'entreprise dans leur épanouissement et puis avancer vers l'avenir.
Merci d'avoir été avec nous, François Ligier. C'est Ligier Group, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Merci.
Il est 13h45.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous devez peut-être subir une intervention ou vous n'êtes pas sûr d'un diagnostic. Et pourquoi ne pas en prendre un autre avis? C'est la solution et c'est deuxièmeavis.fr. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Et si vous avez des soucis de santé, elle est faite pour vous aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, effectivement, on va parler, Anissa, d'une plateforme de santé qui nous permet, Paul, de confirmer le premier avis de notre médecin.
Oui, et cet outil s'appelle tout simplement Deuxième Avis. Ça porte bien son nom puisque, comme vous l'avez dit, Raphaël, ça permet de confirmer ou non le diagnostic du médecin que vous êtes allé voir en premier. En cas de pathologie grave, vous pouvez remplir en ligne le dossier médical partagé qui est un carnet de santé numérique. Pour les moins à l'aise avec la technologie, il y a également un service téléphonique. Vous renseignez vos symptômes, l'avis de votre médecin, le premier avis. Et dans un délai de 7 jours maximum, les médecins experts qui ont été nommés par un comité scientifique vous donnent une réponse et confirment donc ou non le premier diagnostic de votre médecin.
Bonjour Pauline Dorgeval.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des trois fondatrices de Deuxième Avis. Pourquoi est-ce que vous avez eu, vous, envie de lancer cette plateforme? Est-ce que l'avis d'un seul médecin, ce n'est plus suffisant aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si ça a jamais été suffisant. Après, donc effectivement, avec les deux autres fondatrices, on est très engagés sur l'accès aux soins pour tous. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie forme d'inégalité en cas de pathologie lourde. C'est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale. Et en fait, on n'a pas les mêmes chances de guérison en fonction de qui donne un avis et qui prend en charge. D'où l'idée de cette plateforme deuxièmeavis.fr de permettre, c'est un service en fait dédié aux patients et à son médecin, dont la vocation est de permettre à tous d'accéder rapidement, en moins de 7 jours, vous l'avez dit, à un très haut niveau d'expertise médicale en cas de pathologie complexe.
Mais du coup, est-ce que ça pose la question sur la qualité de nos médecins s'il faut deux avis différents?
Alors non, je crois que c'est pas le sujet. Et en tout cas, on n'a pas du tout envie de se positionner comme ça. Le deuxième avis est vraiment systématique dans certains pays comme la Suède, la Suisse, l'Allemagne. La France a du retard. C'est assez normal, j'ai envie de dire, en cas de pathologie lourde, d'opérations lourdes ou de traitements avec des effets secondaires, de tout simplement se poser la question de est-ce que c'est le meilleur traitement, la meilleure prise en charge pour moi. L'idée c'est tout simplement de le permettre. Il y a un autre phénomène, c'est que la médecine depuis 20 ans a fait énormément de progrès, que maintenant les médecins sont sur-spécialisés et que cette ultra-spécialisation est évidemment très inégalement répartie sur le territoire. Et donc finalement, on permet à des médecins et à leurs patients d'y accéder simplement et puis rapidement surtout, parce que parfois on doit prendre des décisions rapidement.
Et quel est le pourcentage d'erreurs de médecins de premier avis entre
Alors
guillemets.
Attention, je crois que la médecine n'est pas une science exacte et on ne peut pas parler d'erreurs. En tout cas, 75% des avis sont convergents, c'est-à-dire que le deuxième avis est
Donc
identique
ça rassure.
Au premier avis. C'est très important parce que ça rassure d'abord vis-à-vis de l'équipe médicale traitante, ça permet une meilleure adhésion au protocole de soins proposé et une meilleure observance médicamenteuse. Et puis donc 25% de taux de divergence. Et dans ces cas-là, ça permet de discuter des alternatives thérapeutiques avec son équipe médicale traitante.
Que dit notre coach Frédéric Mazella?
Alors, bonjour, j'ai deux, trois petites questions. En fait, comment se fait la consultation déjà? S'il y a consultation ou juste on reprend les éléments de la première, enfin s'il y a eu consultation? Je vais donner les questions. La deuxième, c'est sur la confidentialité des données et des dossiers. Parce que je pense que là, on touche à des choses extrêmement importantes.
Bien sûr, ouais.
Et enfin, la troisième, c'est sur la notation, parce que je crois qu'on ne peut pas noter en fait, les médecins. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas, de la même manière que plein d'autres... Il y a des professions qui peuvent être notées, d'autres qui ne peuvent pas, mais comment vous faites?
Ok, alors déjà, peut-être sur la sécurisation de la plateforme, bien sûr, elle est entièrement sécurisée, les données sont entièrement anonymisées. Comme on a été pionnier finalement en télémédecine, on a dû obtenir une autorisation de la CNIL, et donc, on a même été audité, et donc les patients peuvent être vraiment rassurés. Sur la partie notation, on ne permet pas la notation de médecin. Comme vous l'avez dit, en fait, on a un conseil scientifique qui a édité des critères de référencement de médecins avec des critères académiques, des critères de consultation dédiés, des critères d'excellence de leur service ou de leur établissement. Et les médecins sont référencés selon ces critères. Ce n'est pas du tout un référencement exhaustif. Il y a plein d'autres médecins qui peuvent être experts. Mais en tout cas, nous, on garantit aux patients que les médecins qui ont été référencés sur notre service ont un très haut niveau d'expertise sur le problème de santé concerné. Et sur
la manière de faire la consultation,
y a une... Et donc c'est une consultation sur dossier. En fait, le patient transfère son dossier, donc il répond à un questionnaire qui est spécialisé pour la pathologie. Il transfère ses documents, ses examens médicaux, y compris le scanner, l'IRM, donc de l'imagerie lourde, et le médecin expert donne un avis sur dossier.
Paul ?
Et tout le monde peut y avoir accès.
Alors, tout le monde peut y avoir accès. Enfin, l'idée, en tout cas, c'est de permettre à tous d'y accéder gratuitement, sans avance de frais, grâce au partenariat qu'on a avec les complémentaires santé. Oui.
Parce que c'est remboursé à 100% grâce à ce
voilà,
partenariat.
Voilà, grâce à ces partenariats. Hein. Donc voilà, ça c'est important. C'est dans les contrats santé ou prévoyance.
Ça s'appelle deuxièmeavis.fr. C'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu.
Merci
vous la
à
présenter.
Vous,
merci à Paul qui était avec nous aujourd'hui.
Merci,
et à Frédéric Mazella, notre coach. On se retrouve demain. Nous prendrons des nouvelles du temps. Ça va intéresser Elena Morna. Nous parlerons météo.